de la rédaction. Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Alain Hirschler, auteur du livre « Grand rabbin résistant, René Hirschler, 1905-1945, mon père ». Un livre qui retrace la vie de René Hirschler, mais aussi de Simone, son épouse, et du cadre historique et tragique de la France de cette époque. Alain Hirschler, bonjour et ravi vraiment de vous recevoir aujourd'hui dans nos studios à Strasbourg.
Bonjour à vous, merci beaucoup de votre accueil.
Alors on avait envie de vous recevoir pour parler effectivement de ce livre, mais également parce que vous êtes le témoin aujourd'hui et vous êtes un passeur de mémoire, vous avez été enfant caché, vous avez des souvenirs de cette période avec vos deux sœurs, mais également parler du vécu de votre père, grand rabbin ici à Strasbourg. On va refaire la chronologie exacte de votre père et résistant qui s'est mis en danger pour sauver des vies, pour sauver des personnes dans les camps d'internement et jusqu'à sa fatale déportation. On y reviendra aussi. Avant d'évoquer la mémoire de vos parents, pouvez-vous nous dire les souvenirs personnels que vous retenez de vos parents, René et Simone, nés Lévy? Alors vous aviez, je le rappelle, 5 ans au moment de leur déportation.
En fait, je n'ai pratiquement pas de souvenirs personnels. Pas de souvenirs physiques. Mes deux sœurs aînées que vous venez d'évoquer, j'ai deux sœurs aînées, Myriam, qui était née en 1934, Jocelyne en 1935, avaient des souvenirs personnels, physiques. Moi, non, j'ai quelques flashs pendant la guerre, quelques flashs où apparaissent mes parents. Cependant, j'ai reconstitué, grâce à l'interrogation auprès de certaines personnes qui ont connu mes parents ou d'enfants de personnes qui avaient connu mes parents, et grâce à la documentation que j'ai récoltée, notamment à la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, au centre de documentation juive contemporaine qui loge au mémorial de la Shoah à Paris. Enfin, c'est plutôt le mémorial de la Shoah qui loge au centre, oui, de documentation juive qui est au 4e étage, rue Geoffroy-Lanier à Paris, dans le 4e arrondissement, où il y a beaucoup de documentation, entre autres concernant mon père.
Vous avez retrouvé, vous, des photos, des écrits de votre père qui datent de cette période où vous étiez tout petit, vous étiez enfant.
Oui, j'ai retrouvé, notamment au centre de documentation juive, qui d'ailleurs avait été créé dans la clandestinité à Grenoble en 1943, avec quelques autres personnalités de la communauté juive, dans la clandestinité, au domicile d'une personnalité de Grenoble juive, Isaac Schneerson. Là a été créé le centre de documentation juive contemporaine. Il s'agissait bien sûr de, vu les persécutions qui étaient pratiquées envers les juifs, les enfants, les vieux, les hommes, les femmes, il fallait sauver des vies, et aussi c'était tellement spécifique cette persécution qu'il fallait la consigner pour l'histoire en recueillant de la documentation pour le futur, d'où la création du centre de documentation juive contemporaine. Oui, j'ai retrouvé des lettres, des écrits de mon père demandant de l'aide à différentes organisations américaines, suisses, pour aider à sauver des coreligionnaires menacés, notamment ceux qui étaient enfermés dans les camps de la zone sud, la zone dite libre, et qui était un peu l'antichambre de leur transfert à Drancy, puis en déportation vers notamment Auschwitz. Mon père, aidé par ma mère Simone, d'ailleurs, a réussi, tant que pour les rabbins c'était encore légal d'entrer dans ces camps pendant une certaine période, ils pouvaient, à l'instar des prêtres catholiques, pasteurs protestants, imams musulmans s'il y en avait, parce qu'avant les juifs il y avait eu les espagnols, beaucoup de de personnes de l'armée républicaine qui avaient été vaincues par les troupes franquistes dans ces camps de la zone sud. Gurs, Ressébédou, Lémil, de plus en plus ça a été les Juifs après l'armistice. D'ailleurs, certains étaient arrêtés et enfermés dans ces camps sans que les Allemands les demandaient d'ailleurs, de par l'initiative du gouvernement dit de Vichy.
L'excès de zèle de certains commissaires de police de l'époque.
Oui, exactement. Alors, les rabbins a été créé d'ailleurs en 1942, l'aumônerie générale, l'aumônerie pour les camps d'internement. Et mon père a été nommé aumônier général.
Alors, on va reprendre les choses dans oui. À mettre une chronologie
sur le... Je brûle des étapes.
Il n'y a pas de souci, monsieur Hirschler, bien sûr. Alors, vous étiez-vous enfant caché avec vos deux sœurs, dans quelles circonstances?
Alors, nos parents nous ont cachés, puisque ça devenait de plus en plus dangereux pour les enfants, pour eux et pour les enfants, vu leurs activités que vous avez évoquées, d'aide dangereuse au service des correligionnaires menacés de déportation. D'abord, ils se sont adressés à une personnalité professeure de mathématiques protestante, Alice Ferrière, une personne qui voulait aider les organisations juives à sortir des gens de ces camps d'internement de la zone sud. Et puis, ils leur ont dit une fois, nous vous demandons pour nos propres enfants, ils l'avaient sollicité plusieurs fois, son aide pour les aider à faire sortir des correligionnaires des camps. Ils lui écrivent, ils lui disent cette fois-ci c'est pour nos propres enfants. Alors Alice Ferrière dit oui, je vais essayer de leur trouver au Murat pour que vos deux filles puissent continuer leur scolarité et pour le plus petit Alain dans un home d'enfants, pas très loin de ses sœurs. Mais entre-temps une autre filière a été trouvée de Marseille où était le siège de l'aumônerie générale des camps d'internement de la zone sud. On était venu d'Alsace à Marseille, pas parce que c'était la ville natale de mon père, mais en passant après que les Alsaciens se soient repliés, après Périgueux, Nantes, Toulouse, Mont-de-Marsan, Bordeaux, nous avons atterri, si je puis dire, à Marseille. Alors, nos parents trouvent une autre filière que celle qu'avait trouvée Alice Ferrière et nous amènent à Combloux, en Haute-Savoie, de Marseille, où se trouvaient déjà les filles du grand rabbin Israël Salzer, qui était le grand rabbin de Marseille à l'époque. Alors, à Combloux, il nous amène le jour de mes 5 ans, le jour anniversaire, bon, qui a été fait très sobrement, bien sûr, mais fêté quand même. Et le lendemain, ils sont repartis. En fait, le jour anniversaire de mes 5 ans, c'est la dernière fois que nous voyons nos parents et que eux voyaient leurs enfants. Alors, à Combloux, un homme d'enfant neutre, laïque, et ils repartent à Marseille, nos parents, pour régler les dernières appels. Ils ne pouvaient plus aller dans les camps, c'était plus possible. Les rabbins, ils étaient menacés d'arrestation. Et la veille où ils allaient partir dans la clandestinité, probablement suisse, avec de faux papiers, le 22 décembre 1943, ils ont été arrêtés. Alors, à l'arrestation de mes parents, ils ont été enfermés à la prison Saint-Pierre à Marseille, et 15 jours après, transférés à Drancy, mais nous y reviendrons, puis déportés le 3 février 1944 par le convoi 67. Alors, à l'arrestation de nos parents, ça devenait dangereux pour les enfants, quand on connaît les méthodes de la Gestapo ou de la milice d'un certain maréchal. Bon, on est venu nous chercher de Marseille pour nous emmener dans un autre home d'enfants. Mes deux sœurs aînées et moi, à Saint-Gervais, toujours en Haute-Savoie. Et de là, notre oncle Francis, le frère de ma mère, Francis Lévy, de 2 ans plus jeune, qui avait tout juste terminé ses études de médecine de médecin généraliste à la faculté de médecine de Strasbourg. À Mulhouse, il n'y avait pas de faculté, nous étions mulhousiens, puisque mon père avait été nommé rabbin à Mulhouse. Il n'avait pas 24 ans encore. Et il succédait à Jacob Kaplan, qui par la suite devait devenir
et vous êtes
grand
né
rabbin de France.
En 1938 à Mulhouse.
Fin 1938.
Avant d'arriver à Strasbourg, on y reviendra.
Oui, c'est ça. Alors, on est venu, notre oncle est venu chercher au deuxième home d'enfants à Saint-Gervais pour nous amener. Il avait trouvé un endroit pour nous cacher, à la Bourboule, dans une pension non juive, bien sûr, où sur une quinzaine d'enfants, il y avait 5 enfants juifs, dont mes 2 sœurs et moi, et 2 autres. J'étais le plus petit de la pension, d'ailleurs, et de là, nous sommes restés jusqu'à la libération. Et les directeurs de cette pension, d'ailleurs, Georges et Marie-Louise Mazot, devaient être déclarés justes parmi les oui. nations, recevoir la médaille de Yad Vashem des Justes. Et nous sommes restés jusqu'à la libération, là, et là, à la libération, à Chamalières, en Auvergne.
Vous saviez à ce moment-là que vos parents étaient morts en déportation?
Oui, pour ma mère, c'était connu. Je redis que mes parents ont été déportés le 3 février 1944 par le convoi 67, puisqu'on a numéroté le convoi. Ma mère a survécu 2 mois et demi à Birkenau, Birkenau qui était l'annexe d'Auschwitz. Et comme elle était plus apte au, entre guillemets, travail, les pieds gelés, tout, on le sait par des témoins qui, heureusement, pour eux, sont revenus, elle a été sélectionnée pour être assassinée, pour être gazée. Mon père l'a appris à Auschwitz, il y avait des passerelles, il a été très triste, je sais que je suis allé voir longtemps après Raphaël Israël, qui nous a quittés il y a 2 ans à peu près. Raphaël Israël, qui était tout jeune à Auschwitz, qui a connu mon père à Auschwitz, qui était le président de l'amicale des anciens d'Auschwitz, qui m'a dit, il a gardé courage quand même, il a réuni quelques déportés pour dire un kaddish pour son épouse, et malgré son chagrin, enfin, il a gardé courage jusqu'en janvier 1945, où à l'évacuation des camps d'Auschwitz, devant l'avancée des troupes alliées, il y a eu les fameuses marches de la mort. Mon père a fait celle vers le sud, jusqu'à Mauthausen, en Autriche actuelle, le camp de Mauthausen, où il est mort peu de temps avant la libération du camp, en avril 1945, début avril ou fin mars, on le sait aussi par un témoin qui a pu revenir de Mauthausen. Et il est mort là, à Mauthausen.
Sous les coups d'un SS. Alors qu'il avait survécu
Il avait survécu effectivement à la marche de la mort. Et il est mort sous les coups d'un SS, voulant se protéger du froid en prenant le papier d'un sac de ciment. Voilà. Alors, ma mère, on le savait, et à la libération, quand la famille, l'oncle Francis que je viens d'évoquer, le frère de ma mère, de 2 jeunes plus âgés, notre grand-mère, la mère Berthe Lévy, notre grand-mère maternelle, Rachel, la sœur de mon père, qui avait 7 ou 8 ans de plus que mon père. Enfin, le restant de la famille, on s'est réunis en Auvergne. Mon oncle Francis a été nommé tuteur. Et il a pu enfin exercer son métier de médecin généraliste. Il a remplacé un confrère qui partait à la retraite à Argenteuil, en banlieue parisienne. Il a trouvé un logement à Paris, dans le 12e arrondissement, pour sa mère. Berthe et les 3 enfants de sa sœur dont il venait d'être nommé tuteur. Alors on allait le voir à Argenteuil, il venait nous voir, mais c'est notre grand-mère, Berthe Lévy, formidablement, comme elle a pu, elle nous a élevés tous les 3.
Vous avez grandi avec... on va dire avec cette criante vérité, on vous a dit très tôt que vos parents avaient été assassinés par les nazis dans des camps.
Oui, et alors la réunion en Auvergne à la libération dont je viens de parler, mes souvenirs commencent à... Ouais. Effectivement, à cette réunion-là, je me vois encore, je devais être assis sur les genoux de ma grand-mère, ou quelquefois, j'avais donc 5 ans et demi. Et c'est là qu'a été officialisé que René Hirschler était mort aussi. Je me rappelle, tout le monde était triste, enfin, c'était pas joyeux, bien sûr. Et c'est là que ça a été bien officiel que les 2 parents étaient morts, que Simone et René Hirschler, que nos parents étaient, étaient morts.
Votre père a été décoré ensuite l'ordre oui. de la résistance. Et vous avez su également rapidement qu'il s'était inscrit en héros de la résistance, oui. En menant des actions auprès de, des personnes âgées pour les envoyer vers des hospices plutôt que vers des camps d'extermination, ou en leur faisant livrer des colis pour aider les personnes dans les camps d'internement à survivre tout simplement.
Oui, je l'ai su, mais je l'ai su de façon plus détaillée plus tard, par mes recherches, par mes interrogations auprès de personnes qui pouvaient me renseigner, mais la documentation que j'ai trouvée. Je dois dire d'ailleurs que il a été effectivement, à titre posthume, la médaille de la résistance lui a été attribuée. La croix de guerre avec étoile d'argent à Simone Hirschler, à ma mère, tous deux ont été déclarés morts pour la France aussi. Nous avons été pupilles de la nation, mes deux sœurs et moi.
On va revenir sur cette période avant la déportation. Oui. Alors, on le disait, il a été rabbin de la synagogue de Mulhouse avant d'être grand rabbin ici, à Strasbourg, du consistoire israélite de Strasbourg en 1939. Au moment des prémices hein, de l'antisémitisme, des prémices de cette guerre hein, qui allait arriver en septembre, lui il est arrivé en juin, il a eu peu de temps en fait. Qu'est-ce qu'il a fait pendant cette période? Il a mis des choses en place. Sur un plan plus personnel, est-ce qu'il a essayé de rassurer ses co-religionnaires, ce genre d'action envers sa communauté?
Il a continué ce qu'il avait entrepris à Mulhouse, où à Mulhouse, outre ses fonctions de rabbin, ils avaient, je rappelle un peu à Mulhouse, ils avaient, ce qui a été fait à Mulhouse, il avait succédé à Jacob Kaplan, il avait auprès de la jeunesse, il avait beaucoup aidé, il s'était enquis des besoins, des désirs de la jeunesse, il y avait des Oneg Shabbat, Oneg Shabbat dans la cour de la synagogue de Mulhouse. Il y a quelques photos dans le livre que vous, mon petit ouvrage que vous avez évoqué. Il y a des photos il y a une photo en ce sens-là. Ils avaient fondé à Mulhouse Kadima. Je vais revenir à Strasbourg, mais là j'évoque un peu Mulhouse. Kadima en avant, une revue. Ça n'existait pas tellement à l'époque. À l'issue de l'office du Shabbat, les gens se donnaient, papotaient entre eux, si je puis dire, se donnaient les nouvelles, mais il n'y avait pas d'organes maintenant, depuis longtemps, il y a des revues, des publications. Là, ce n'était pas si fréquent, ils avaient créé Kadima, où d'ailleurs, outre des questions religieuses, il y avait des questions artistiques, musicales, philosophiques. Ma mère écrivait des contes dans cette revue Kadima, des contes que précédemment au livre qui lui est consacré, et à mon père, que vous avez évoqué, ma mère écrivait des contes que j'ai pu retrouver à la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle. La revue Kadima, c'était en bon état, on m'a donné des photocopies, j'ai tapé à l'ordinateur ces contes-là et qui sont parus il y a 3 ou 4 ans avant cet ouvrage consacré plus à mon père, sous le titre Le mariage merveilleux et autres contes d'Israël au sens large, voilà, avec une illustration à chaque conte. À Strasbourg, il a continué. À partir d'un certain moment, il fallait aider, ce qui devenait urgent, c'est d'aider les gens persécutés, les juifs d'Allemagne et d'Europe centrale plus généralement, et notamment d'Allemagne, bien sûr, depuis l'avènement du nazisme en 1933, alors les aider matériellement, médicalement pour ceux qui avaient besoin de soins dans les hôpitaux, trouver des papiers pour ceux qui voulaient partir aux États-Unis ou en Palestine, c'était pas encore Israël à l'époque, leur faciliter leur voyage, c'était un travail social et très important. Et à Strasbourg, il a continué, il a un peu continué le peu de temps, les prémices devenant carrément une menace bien factuelle, puisque en 1er septembre 1939, c'était la guerre, il a continué à aider le peu de temps qu'il a été à Strasbourg. Il a fait son discours inaugural dans la synagogue de la rue Kléber, qui n'existe plus, comme vous le savez,
qui a été détruite
par les nazis tout de suite en 1940. Maintenant, il y a ce bel édifice-là, la synagogue de la paix, où nous nous trouvons actuellement. Alors, à Strasbourg, bon, il a un peu continué ce qu'il avait fait à Mulhouse, mais rapidement, il a été mobilisé, comme tous les Français. Il a été aumônier, alors aumônier israélite, militaire, lui, militaire comme rabbin. Je dois dire, d'ailleurs, je fais une parenthèse, son père Raoul, qui n'était pas rabbin, avait été ôté pendant la guerre 14-18, qui était marseillais, avait été aumônier israélite aussi dans les tranchées. Il a porté à Pâques, partie des matzot pour les soldats israélites, Raoul Hirschler, le père de mon père.
Et donc, voilà. À l'époque de son passage strasbourgeois, vous savez, vous, où est-ce qu'ils ont vécu avec votre maman
non,
et
alors,
vos deux sœurs?
Oui. En fait, nous n'avons jamais habité à Strasbourg. Nous devions habiter Strasbourg.
Oui.
Nous n'y avons pas vécu. La guerre a déclaré juste avant que nous déménagions de Mulhouse pour Strasbourg. Mais nous n'avons pas pu habiter. Alors, il a été, depuis juin, discours inaugural à la synagogue du Quai Kléber en juillet, à Strasbourg, où il remplaçait Isaïe Schwartz, qui venait d'être nommé élu grand rabbin de France. Il y a des photos où il y a une séance inaugurale en juillet 1939, et avec son prédécesseur, Isaïe Schwartz. Mais nous n'avons pas habité Strasbourg, en fait. Nous avons failli habiter Strasbourg, mais nous n'avons jamais habité. Si je peux revenir sur Mulhouse, un peu pendant son rabbinat à Mulhouse, au sujet de ma mère, qui avait, vis-à-vis des femmes, ma mère, qui était un peu en avance, qui avait donné une conférence en décembre 1936 sur le thème « Judaïsme et féminisme ». Bon, c'était tout nouveau.
C'était très précurseur pour l'époque.
Mais c'était très précurseur à l'époque, « Judaïsme et féminisme ». Cette conférence, je l'évoque dans le livre sur mon père, là, le petit livre, mais tout récemment, je viens d'avoir le texte intégral. Je n'avais jamais eu le texte intégral. Il était d'Israël. Enfin, on m'a envoyé le texte intégral de cette conférence que je pense la faire connaître. Elle le mérite, cette conférence.
Pour vous, Alain Hirschler, c'est une quête encore aujourd'hui. Tous les éléments qui peuvent étayer ce récit autour de la vie trop courte de vos parents.
Oui, oui. Cette quête n'a pas toujours existé, d'ailleurs, hein, comme beaucoup. Bon, puis j'étais jeune. Petit à petit, c'est devenu. Ça m'a été un peu une nécessité de reconstituer au du mieux possible. Pas de façon exhaustive, c'est difficile, mais du mieux possible, par les recherches, par la quête de témoignages que j'évoquais tout à l'heure, sur ce qu'a été les différents aspects de la vie de mes parents.
Et aujourd'hui, dans la transmission, en direction de vos enfants, des enfants de la famille, des neveux, des nièces, c'est quelque chose que vous continuez, c'est cette nécessité toujours de transmettre.
Oui, je l'ai toujours auprès de la famille, auprès des jeunes de la famille. Récemment, j'ai évoqué ma sœur Myriam, dont les enfants, Joël et Natacha, habitent Israël. Ceux de Jocelyne aussi, d'ailleurs. Non, pas. Elle a un fils, Emmanuel, et sa fille habite en France. Les enfants de ma sœur Myriam ont fait leur alia. Et il a fait, Joël, mon neveu, donc, a fait ses amis, sa famille en Israël, a fait une petite conférence. C'était en Zoom, c'était pendant le confinement. Et il a beaucoup évoqué le livre de contes de ma mère que j'évoquais. Donc cette transmission est utile. Je transmets aussi, alors souvent à la demande de professeurs d'histoire, assez souvent dans des écoles, collèges, lycées, publics ou privés, de CM, des classes de CM2 ou de 3e ou de 1ère ou de terminale, la Seconde Guerre mondiale étant au programme d'histoire. Je témoigne pour illustrer le cours d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale. Je suis appelé à témoigner auprès des élèves en province, à Paris. Je l'ai fait à Strasbourg aussi.
Alors une dernière question pour clore cette interview. C'est très court, évidemment. Je donnerai le nom de votre ouvrage pour nos auditeurs qui veulent se le procurer, parce que vous avez le récit, la biographie de votre père, de votre mère dans ce livre. Mais une dernière question, je vous demande une réponse courte. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Pour vous, si vous aviez une valeur à garder de la transmission de votre père, ce serait laquelle ?
Ouverture d'esprit, mémoire du passé et comportement le meilleur possible, compte tenu des enseignements de cette mémoire, que cette mémoire peut apporter, avec de l'ouverture d'esprit vers autrui. Et juste un petit mot, il y a une association, l'AERIA, l'Association de l'étude de la recherche par la résistance des Alsaciens, qui a édité aussi un petit livre où il est question de mon père, beaucoup. Et un dernier mot, à Mulhouse, récemment, il y a eu l'inauguration d'une place Simone et René Hirschler. C'est tout récent. C'est venu bien après l'inauguration de la place de la rue René Hirschler à Strasbourg.
Alain Hirschler, merci infiniment. On a été très honorés de votre présence aujourd'hui dans les studios. Vous êtes l'auteur du livre « Grand rabbin résistant, René Hirschler, 1905-1945, Mon père », et c'est aux éditions Caractère. Merci à vous.
Merci beaucoup à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.